Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voix. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible par la maison d'édition Vuber qui t'accompagne dans la préparation des épreuves de DCG. Étudiant dans une école, en formation initiale ou en alternance, ou encore en candidat libre, Vuber est la maison d'édition qu'il te faut. Leurs manuels conformes au programme officiel contiennent des exercices d'entraînement, des QCM interactifs, des exercices corrigés, des sujets type examen, des grilles d'auto-évaluation, bref, tout ce qu'il te faut pour maximiser tes chances de réussite à l'examen. Ils ont même créé un site internet spécialement dédié aux étudiants de DCG qui contient des sujets et corrigés supplémentaires pour t'entraîner, mais aussi les actualités de l'expertise comptable et même des vidéos avec les experts du Lab 50, l'observatoire de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Pour y accéder, il te suffit de taper dcg.viber dans ta barre de recherche. Et maintenant, place à notre invité. Bonne écoute! Bonjour Gaëlle.
Bonjour Julie.
Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour la petite histoire avec Gaëlle, ça fait plusieurs fois qu'on voulait se voir et tout sur des congrès, on n'y arrive pas. Donc là au moins on a calé un point, je vais tout savoir sur sa vie. Bon, elle va peut-être pas tout savoir sur la mienne, mais t'en sais déjà un peu je pense de par les réseaux. Donc si je t'explique comment ça va se passer, on va remonter au tout début, savoir Gaëlle, quel type d'enfant elle était, dans quel contexte elle a évolué, pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime au quotidien.
Ça marche. Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 48 ans, j'ai deux grands-enfants qui ont 18 ans et 15 ans. Donc, un fils qui a réussi avec brio le concours pour rentrer à l'école Veto juste après le bac. Et puis, une fille qui est en seconde. J'ai une grande chance, c'est qu'ils ont des facilités, ils sont hyper autonomes. Donc, je ne m'inquiète pas trop de ce qu'ils font à l'école, etc. Et puis, je crois que je leur ai un peu inculqué le sens de l'effort et du travail méritant. Donc, en fait, tout roule, quoi. Ils ont en plus trouvé leur voie. Je crois qu'ils ont cette chance. Je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est être là quand ils ont besoin. Et puis, je suis mariée. J'ai un mari qui travaille dans le transport, dans la logistique. Du coup, on a un rythme de délai et d'échéance qui n'est pas le même, tous les deux, puisque lui, il est sur du transport de froid. Et du coup, les échéances, elles sont à la journée. Donc, il a une pression tous les jours pour garantir un délai dans la nuit en termes de livraison. Là où nous, dans l'expertise comptable, certes, on a des délais, mais qui peuvent être plus longs et qu'on gère d'une autre manière. Donc, ce n'est pas toujours simple en vie à la maison d'avoir deux délais différents à gérer. Bon, on y arrive. La particularité, c'est que j'ai un mari qui est libanais. Donc, il y a une double culture à la maison, du coup. Et c'est hyper riche et ça a toujours été le cas. Et puis aujourd'hui, à la tête de mon cabinet depuis 4 ans, on en parlera du coup quand on va échanger toutes les deux, avec une petite expérience start-up entre-temps. J'ai connu les hauts, les bas, des cabinets différents, on va voir tout ça. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est vraiment d'être la deuxième tête, le deuxième cœur d'un dirigeant et de vivre quelque part son projet ou son activité par procuration, en fait. Parce que j'ai pas le temps de créer plein d'entreprises pour tous les sujets qui m'animent. Donc, d'être leur expert comptable, c'est un peu comme si je le faisais avec eux, en fait.
Un peu le copilote
Ah tiens, c'est marrant, c'est un nom que je connais pas. Oui, on pourrait
Frédéric,
dire le copilote.
Si tu nous écoutes et toute l'équipe.
On pourrait dire le copilote, mais le copilote, il est encore beaucoup à côté. Moi, j'aime bien l'image où nos cœurs, ils vont être à l'unisson et nos cerveaux aussi, en fait. Donc, j'ai pas encore trouvé de mot pour ça. Sur mon profil LinkedIn, j'ai mis agitatrice parce que j'aime bien aller bousculer un peu les dirigeants et surtout les dirigeantes qui n'osent pas. Et j'ai mis aussi soutien, parce que dans les moments où c'est plus compliqué, je pense que les expériences que j'ai eues me permettent d'être aussi à l'écoute de ce dont ils ont besoin et de comment je peux les aider.
Ok, super intéressant. Et alors, où est-ce que tout a commencé? Est-ce que tu es originaire du Pays de Loire? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais comme avec Sarah, on est dans les locaux du CECARA, donc qui est l'IRF de Pays de Loire. Donc c'est l'organisme de formation de l'ordre qui dispense les formations, et notamment, je crois que les stagiaires viennent ici, les experts comptables stagiaires, pour leur journée de formation. Donc un grand merci à eux pour les locaux.
Effectivement, merci pour l'accueil. Du coup, oui, je suis née à Saint-Nazaire, donc c'est à 60 km environ de Nantes, au bord de la mer. C'est l'estuaire de la Loire. Comment dire, une grande force sur tout ce qui est naval, les chantiers de l'Atlantique, la construction des paquebots énormes, ça fait rêver quand on peut les visiter. Aussi station balnéaire, puisque du coup, née à Saint-Nazaire, mais désormais, j'ai ma maman qui est à Pornichet, donc sur la plage, on va dire ça comme ça, et mon papa étant à Saint-Nazaire. Il y a aussi de belles villes avec les marais salants. J'ai une sœur qui est à côté des marais salants. Enfin voilà, on est dans une très belle région, je suis originaire d'ici. Par contre, mes parents ont eu la bougeotte depuis que je suis petite. Donc on a habité près de Nantes, on a habité Albi, dans le sud de la France. Une très belle cathédrale, pour ceux qui y passeront, c'est magnifique. Et un musée Toulouse-Lautrec aussi, qui est sympathique. On a aussi habité en région parisienne, avant de revenir sur la région nantaise. Et puis bah, moi, mon parcours, du coup, il a été de dire « j'irai où le vent me portera pour faire le job que j'ai envie ». Donc du coup, mon premier job, il était à Nîmes.
Quel type d'enfant t'étais quand t'étais petite? Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme métier? Parce qu'ils avaient la bougeotte, c'était peut-être en lien avec leur métier.
Alors, mes parents, ils se sont rencontrés très jeunes à Angers, à la faculté d'Angers. Ils n'ont pas fini leurs études parce qu'ils ont eu une grande fille qui arrivait, c'était moi. Je suis l'aînée de 4 enfants, on est 2 filles, 2 garçons.
La parité respectée.
Ouais, et puis filles, garçons. Et sur 10 ans, donc avec 3-4 ans d'écart à chaque fois entre nous. Du coup, ma maman, elle se destinait à être interprète trilingue. J'ai une maman qui est plutôt littéraire, histoire, langue, etc. Et à côté, mon papa, hyper complémentaire, lui, c'est plutôt tout ce qui est maths, technique, business, etc. Même si au début, son activité était liée au dessin industriel, en fait, il est très vite devenu commercial, technico-commercial, dans le domaine de la métallurgie. Et il a monté sa première société, je crois que j'avais 5 ans, du coup, un petit frère qui avait 1 an. Et comme il avait en charge la moitié ouest de la France, et en particulier un bassin dans le sud, du coup, on a été habité à Albi pour qu'il soit au plus proche de certains de ses clients. Mais le siège de la société était à Paris. Donc, il y avait plein de fois où le lundi matin, on l'emmenait à l'aéroport en pyjama dans la voiture et on le revoyait que le vendredi soir.
Quel type d'enfant t'étais? Est-ce que t'étais plutôt sage, turbulente? Est-ce que tu prenais ton rôle de grande sœur à cœur et t'étais, on va dire, exemplaire? Ou pour tes frères et sœurs?
On va dire qu'aux yeux de ma maman, je devais être exemplaire, de mon papa aussi. Après, il y a eu un passage où j'ai testé un peu les limites, on y reviendra peut-être plus tard, c'était au moment de la majorité. J'ai plutôt eu des facilités aussi. Du coup, je n'ai pas fait de CE1, j'ai fait CP, CE2 en sautant une classe, avec 2 mois dans mon souvenir où il y a eu de l'adaptation en CE2, mais où très vite, ils ont arrêté de faire ça. La particularité de bouger, c'est que j'ai changé d'école quasiment tous les ans sur le primaire. Donc à chaque fois, il faut se refaire des copains, etc. Donc j'avais toujours une angoisse sur le jour de rentrée, ça je m'en rappelle. En plus, j'étais spasmophile, donc ça portait sur le ventre, c'était assez désagréable.
C'est quoi spasmophile? Je connais pas bien.
En fait, c'est que quand t'es dans un état de stress, d'anxiété pour quelque chose, et après ça s'est fait au moment où il y avait les examens, t'as hyper mal au ventre, et du coup t'apprends à faire de la respiration ventrale pour du coup être un peu plus zen et prendre les choses autrement. Mais des gens qui apprennent pas à le gérer, ça peut se transformer en crise d'anxiété, tu peux être malade à aller au sanitaire, etc. quoi. Donc ouais, toujours une petite angoisse, parce que changer d'école en changeant de ville, c'est se refaire des copains.
Donc, comment ça, zéro?
Du coup, je crois que c'est de là que je tiens ma capacité à aller vers les autres. J'ai pris sur moi, je dis pas que c'était facile depuis petite, mais ouais, la faculté à aller vers les autres, plutôt un tempérament à être leader et à mener un groupe. Ça, depuis le collège, c'est évident. Maintenant, toujours dans la bienveillance et dans l'intérêt des autres. Pas pour prendre une posture de chef, mais plus pour dire, bah, allez, on est actifs, on fait quelque chose, on est tous ensemble.
En plus, comme tu me disais un peu en off, de les pousser, eux, à monter, plus que...
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Alors, ça m'a valu des fois des petites histoires. Alors, du coup, quand on est revenu de la région parisienne, mon papa avait vendu ses parts dans la société. Il en avait créé une autre, plus dans la communication, parce qu'il a un côté créatif. Cette boîte-là n'a pas marché. Donc, dépôt de bilan et puis des dettes à rembourser. Et on s'est retrouvé dans un quartier défavorisé de Nantes. Enfin, une ZUP, quoi, qui est juste à côté, qui s'appelle Malakoff. Certains pourraient se dire, oulala, ça a dû être dur et tout. En fait, moi, j'en garde un super souvenir. Richesse de culture, c'est aussi ce qui m'a forgé pour me dire, non, moi, je ne viendrai pas là-dedans et je vais faire des études, etc., pour asseoir une stabilité financière. Donc, ça a toujours aussi été un moteur. Mais par contre, un échange riche avec vraiment plein de monde différent. Et... Alors oui, il y avait un milieu de violence possible, il y avait un milieu de drogue. Mais quelque part, il fallait s'adapter, il fallait savoir se faire aimer de tout le monde, savoir naviguer. Et en fait, je m'en suis très bien sortie. Ça m'a aidé aussi à veiller sur mes frères et sœurs, à faire qu'à eux, il leur arrive rien. Mais parce qu'en fait, j'étais devenue copine avec les chefs de bande, qui étaient les grands frères. Donc du coup, ça a aidé à protéger les plus petits. Et j'en garde un super souvenir, vraiment. Des professeurs qui étaient dans un collège où ils avaient des élèves difficiles et où en fait, ils arrivaient à motiver les gens, à leur donner de l'intérêt dans ce qu'ils faisaient, etc. Donc dévoués, corps et âme au fait que les gamins réussissent. Donc, c'était riche.
Est-ce que tu avais des idées de métier que tu voulais faire quand tu étais plus petite ou...
Alors, au collège, non. Au lycée, ça a émergé. J'avais un attrait pour les sciences. J'ai fait un bac scientifique, en fait, où on avait SVT, physique, chimie et maths au même coefficient. C'était le bac D à l'époque. J'avais des facilités, donc je n'ai pas trop bûché pour avoir des mentions ou autre. Hein. Moi, j'aime bien profiter à côté, donc je fais ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais j'avais en tête deux choses. J'avais les enfants qui m'attiraient à l'époque, mais pas avec des méthodes traditionnelles pour s'en occuper.
L'éducation, peut-être plus.
En fait, maintenant, on a Montessori, on entend parler. Je ne sais pas si je serais allée jusqu'à du Montessori, mais j'aurais bien... Enfin, j'avais dans l'idée de dire je monte quelque chose comme une crèche et du coup, j'y applique dedans des méthodes un peu différentes en termes d'éducation. Après, comme j'avais un père entrepreneur, il m'avait expliqué que du coup, il y a des choses à payer, etc. Je m'étais fait un petit business plan sur
déjà
papier
à l'époque.
et en fait, je savais par mon passé en ZUP qu'il y avait des choses dont j'avais pas envie financièrement. Et quand j'étais arrivée à un résultat qui semblait cohérent, en tout cas aux personnes avec qui j'en avais parlé, et qui me montrait que le salaire allait pas être à la hauteur de mon engagement, j'avais dit ça, j'aime bien les enfants, mais je vais mettre une croix dessus en fait. Donc déjà, un parallèle entre qu'est-ce qui m'attire et qu'est-ce que ça me rapporte et est-ce que je suis capable de faire ça pour ça, en fait. Donc ça, le choix, stop, j'arrête. Le deuxième truc qui me plaisait, c'était la chimie, la biochimie, pour bosser en cosmétique et parfumerie. J'avais une collection de flacons de parfum, j'adorais tout ce qui traitait de la parfumerie, que ce soit le packaging, les odeurs, etc. Alors, j'étais pas un nez. Mais j'aurais bien aimé évoluer dans ce milieu. Le seul problème, c'est que l'école que j'aurais voulu faire, elle était à Grasse. Et j'ai eu mon bac à 17 ans. Grasse, c'est près de Nice. Nantes, ça fait plus de 1000 km. Je ne me sentais pas prête à partir à 1000 km. Donc, j'ai été à un grand salon qui a lieu ce week-end, d'ailleurs, à Nantes, qui s'appelle la Formatech. Tous les lycéens vont là-bas voir les écoles, etc. Et lors de ce salon, je navigue un peu partout, stand des experts comptables. Sur le stand des experts comptables, je ne me rappelle pas de son nom, mais alors un professionnel qui m'a dépeint son métier, je suis rentrée de la Formatech, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je vais faire. Il n'y avait plus rien d'autre. J'étais en première, j'aurais dit, c'est ça que je vais faire. Je vais finir mon bac scientifique parce que je suis engagée et que ça marchera très bien pour aller faire les études derrière. Mais ce dont il m'a parlé, les déplacements, et moi je rêvais de faire un peu comme mon papa et de me déplacer régulièrement parce que je trouvais qu'il avait la belle vie en allant à l'hôtel, etc. Le fait de voir plusieurs activités, le côté juridique, en même temps le côté financier, utiliser l'informatique, parce qu'en seconde j'avais fait option informatique, c'était quelque chose qui m'attirait déjà. Tout ce qu'il m'avait évoqué m'avait plu, en fait.
Et tu te rappelles si... Oui, c'était pas une phrase en particulier ou un aspect, c'était général. Enfin, en fait, tout...
C'était le fait que ce soit polyvalent, en fait. Ouais. Donc, c'était pas une chose plus qu'une autre. Les chiffres, j'avais toujours aimé ça, donc attaquer de la compta.
Tu faisais déjà des business plans.
Ouais. Alors je faisais autre chose et ça fera peut-être rire tout le monde. À l'époque, on avait des catalogues qui s'appelaient La Redoute. En fait, pour savoir ce dont j'avais besoin comme budget pour m'installer, je passais mon temps à feuilleter avec une feuille à côté qui disait « je veux acheter ces casseroles-là, je veux acheter cette télé, cette étagère ». Et ça me faisait le budget de ce qu'il me fallait pour démarrer dans la vie, en fait. Donc, j'étais déjà dans les business plans à l'époque. Voilà.
Après ton bac S, bah, tu l'obtiens, je suppose. Est-ce que tu vas directement dans la filière experte comptable classique ou quel a été ton parcours ?
Alors, sur Nantes, on avait deux options qui existaient. On pouvait aller en lycée public pour préparer à l'époque le DPECF, DECF, DESCF. Parce que venant d'un bac scientifique, je n'avais pas fait de compta avant. Donc, pour rattraper la filière, il fallait le DPECF. J'aurais pu faire un BTS, mais je perdais un an, donc autant le faire en accéléré. Et on avait des écoles de commerce qui permettaient de préparer la filière, dont une qui s'appelle l'ISEG, qui existe encore aujourd'hui, mais qui ne fait plus la filière finance, qui fait que la partie communication, marketing, commerce. Et du coup, j'avais mis les deux devant mon père et ma mère, puisque c'était eux qui allaient financer les études, en disant voilà les taux de réussite, voilà comment ça se passe et tout. Et mon père m'avait dit, écoute, il en était à sa troisième boîte, du coup. Il me dit, là, la société fonctionne, etc. On a les moyens de payer. Le seul engagement que tu prends, c'est que si demain, pour tes frères et sœurs, j'ai pas les moyens, tu fileras un coup de main, quoi. Enfin, c'était un échange gagnant-gagnant, quoi. Et il me dit, par contre, je préférerais que tu fasses l'école de commerce. Il y voyait deux raisons. Les classes étaient plus petites, le taux de réussite était meilleur. Et il m'a dit, tu auras une double compétence. Parce que tu auras des matières que tu ne feras pas dans la filière compta, type marketing, communication, géopolitique, etc. Donc, banco, je suis arrivée en école de commerce avec mes petits 17 ans. J'étais encore chez papa, maman. À l'époque, ils habitaient encore Nantes. Donc, avec un papa qui venait me chercher à minuit à chaque fois qu'il y avait une soirée étudiante. Enfin, la honte, quoi. Comme quoi, ça m'a marqué les études. Ce que je me rappelle, c'est les soirées. Mais, et du coup, une année extraordinaire. On était tous de filière générale. On n'en avait qu'un dans la classe qui venait de filière gestion. Et l'année de DPECF, on a eu des profs, mais extra. En compta, en droit. On avait une ancienne juge pour enfants du tribunal de Rennes. Une dame qui était dans la comptabilité, qui nous formait, mais qui était hyper pédagogue, qui était factuelle, qui vraiment, j'en garde un super souvenir. Ensuite, les deux années de DECF un peu plus compliquées, parce que la gestion financière, j'ai pas eu le déclic tout de suite. Donc j'ai galéré, j'ai eu 6 la première fois que j'ai passé l'UV. Et puis l'année d'après, je l'ai préparée toute seule. J'ai pas suivi les cours, je l'ai préparée toute seule, en bûchant les bouquins et tout. Et là, j'ai eu 14, donc comme quoi, des fois, il faut juste le déclic. Donc DECF, je l'ai pas eu en entier en 2 ans à cause de la gestion financière. Et le DESCF, qui était à la 4e année, du coup, j'ai enchaîné, validé DECF, passé le DESCF, plus le titre de l'école de commerce, qui était expert en gestion financière, en fait.
Et tu as fait des stages pendant ton cursus ?
Alors, on n'avait pas de stage forcément obligatoire à l'époque. Du coup, le premier stage, je l'ai fait dans la première société que mon papa avait montée, puisqu'il était leur représentant avec sa troisième boîte. Plus sur un aspect compta client, mais du coup, où il m'avait mis à contribution pour aussi faire de la relance de règlement, etc. Donc vraiment voir l'aspect client et comment l'argent rentre avant de voir comment il sort. Hyper intéressant, 4 semaines, un vrai job, ma première paye en plus, il m'avait payé parce que j'avais vraiment fait du travail effectif en remplaçant quelqu'un. Donc super chouette, sur la région parisienne, c'était sympa. Deuxième stage, je l'ai fait chez l'expert comptable de mon papa, groupe Excel. Du coup, il était dans les premiers, je pense, du groupe Excel, c'était Alain Vrignaud. Pareil, j'ai appris de fou. Enfin, ils étaient 3 cabinets regroupés au même endroit pour faire la mise en commun de compétences, etc. Ils m'avaient fait confiance, ils m'avaient confié le standard leur journée de séminaire où j'étais toute seule à répondre. J'en garde un grand souvenir d'une responsabilité énorme de prendre les messages. Et j'avais appris pas mal de choses, mais alors à l'époque, ça parlera pas aux gens qui t'écoutent, je pense. On faisait les tableurs sur multiplan. C'était même pas Excel, c'était un ancêtre sur les écrans noirs avec du orange, avec des grandes disquettes plates, souples. Mais bon, j'avais eu tout un truc à monter sur multiplan. Enfin, je m'étais bien éclatée. Et le troisième stage, je l'avais fait chez un expert comptable qui était aussi président ou en tout cas intervenant dans un centre de gestion. Donc, j'avais fait un mixte, 3 semaines dans son cabinet et 3 semaines dans le centre de gestion. Et lui était en plus expert judiciaire, donc j'avais eu l'occasion de voir cet aspect-là dans son cabinet.
Tu avais déjà vu pas mal de choses pendant tes stages différentes.
Ouais, tout à fait. Et en année de DESCF, on n'avait que 3 jours de cours par semaine, donc on nous avait proposé de trouver des stages 2 jours par semaine. L'alternance n'existait pas trop encore, c'était les débuts. Et j'avais dit, bah non, moi je sais ce que je veux faire, c'est le stage expert comptable, j'ai pas besoin de faire un stage. Et du coup, j'avais épaulé l'équipe communication de l'école. Donc en fait, je préparais les salons, je faisais les invitations aux étudiants, j'allais sur les salons, faire les stands, etc. Du coup, une dimension plus commerciale pour le coup, et ça me plaisait bien aussi.
Tu sais, quand tu as choisi ton cursus, enfin aussi avec tes parents, ton père donc te disait que tu allais voir plus de choses en étant à l'école de commerce, mais en soi, vu que tu suivais le cursus classique, a priori, il y avait, enfin,
on
pas
avait
forcément
des matières
de marketing, de com,
si,
tout ça.
Si, ah, si, on avait des matières en plus des cours qui nous préparaient aux UV, on avait des matières pour préparer le titre de l'école de commerce. Donc en fait, ils nous mettaient des matières un peu différentes. Il y avait certains cours qu'on avait en commun avec le cycle affaires internationales. Puis on était mélangés en plus. On a eu du jeu d'entreprise, comme tu as le tournoi de gestion maintenant. Nous, on l'a eu en séminaire d'intégration de deuxième année, où on était mélangés avec les filières commerciales, marketing et affaires internationales. Donc non, c'était riche. Après, ils n'avaient pas le temps de nous en mettre beaucoup, hein, parce qu'en 4 ans, le programme, il était bien dense quand même. Hein. Donc,
Est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, tu penses, à la filière, toutes ces parties communication, marketing, commercial, digital,
numérique, j'allais te le dire. C'est mon domaine de prédilection. Ouais, je pense que ça manque très, très clairement. Qu'il y a des matières aujourd'hui... Je ne sais pas si c'est nécessaire de passer autant de temps sur la partie comptable, par exemple. Quand on voit aujourd'hui ce que les outils nous permettent de faire, d'automatiser, d'avancer, comprendre les systèmes, les principes, oui. Rentrer dans le détail et voir que dans certains cours, il faut encore dessiner un grand livre sur une feuille en papier pour pouvoir mettre les comptes à gauche, le libellé au milieu et les montants débit crédit, ça me fait sourire, quoi. J'ai été correcteur pour le DECF là, au niveau du rectorat de Nantes, au début où j'ai créé mon cabinet il y a 4 ans. J'ai été correcteur de l'UV système d'information, mais j'ai cru mourir. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils apprennent encore ça comme ça. C'était déjà le cas à mon époque, quoi.
Le Excel sur papier.
Ouais, ou le fait de formaliser les bases de données, d'expliquer que les tables, il faut qu'elles aient un dénominateur commun pour qu'on puisse... En fait, il ne faudrait pas l'expliquer comme ça aujourd'hui. Ce serait beaucoup mieux de l'expliquer en expliquant comment on modélise sur Power Query ou Power BI que de le faire comme il l'explique encore, quoi. Donc, il y a ou moderniser des matières qui existent dans les UV, ou en rajouter qui ne sont pas abordées. Comment communiquer sur les réseaux sociaux, ça devrait être une UV du diplôme aujourd'hui.
Ou peut-être aussi, je pense, pour un peu, enfin, un entre-deux, je pense que aussi en fonction des intervenants qui font les cours, bah, comme tu le dis, en fait, on peut apprendre de différentes façons et du coup illustrer avec des cas qui vont plus parler et qui sont plus au goût du jour.
C'était une chance qu'on avait en école de commerce. C'est qu'en fait, on avait des intervenants, on n'avait pas des professeurs. Donc en fait, pourquoi, on le verra tout à l'heure, mon 4e job salarié, c'était avec un de mes anciens profs. Parce qu'il était expert comptable et qu'en fait, il venait enseigner en même temps qu'il travaillait dans son cabinet. Donc du coup, tu n'apprends pas les choses du tout de la même manière quand la personne qui t'enseigne est là pour te parler de cas concrets, de pratiques, que quand tu es sur de la théorie pure, en fait.
Clairement. Oui, et même, je pense, pour l'attractivité, enfin, tu vois, le fait de raconter des anecdotes, tout ça, de dire ce qui se passe, bah, notamment en cabinet ou en entreprise, bah, je pense que ça peut aussi donner envie de rester plutôt que quand tu es tout le temps sur de la théorie. Enfin, c'est bête, mais je pense que les petites anecdotes, soit rigolotes, soit un peu moins rigolotes, mais ou des fois, ça peut être un peu, un client qui est chiant ou pas, ou nous, comme on a fait une erreur, le cabinet, du coup, voilà comment ça s'est passé. Enfin, je pense que ça contribue aussi à ce que les étudiants puissent se projeter et aussi après choisir si oui ou non. ils veulent faire ça. Et par contre, ceux qui veulent vraiment le faire, bah, en fait, ils... Enfin, là, tu sais que tu les as ferrés et ça y est, ils vont rester, quoi. Enfin...
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vois quand j'évoque avec des jeunes, alors j'interviens dans une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Du coup, le but du jeu, c'est d'aller dans les collèges, éventuellement les lycées, parler des métiers et du fait d'être entrepreneur. Parce qu'en fait, ils se font un mythe hein, en voyant les influenceurs sur les réseaux. Ils ont l'impression que dès que tu es indépendant, tu vas gagner...
Sinon, tout le monde le ferait. Hein.
Tu vas gagner un chiffre si avec 5-0 derrière, rouler dans une grosse voiture, etc. Donc déjà, il faut casser un peu le mythe, leur expliquer quelles sont les règles, comment ça fonctionne. Et puis du coup, quand je m'adresse à des jeunes qui parfois font de la compta ou quoi dans des lycées professionnels, je leur explique que moi, quand j'ai démarré mon premier job, la première saisie que j'ai eu à faire, c'était la caisse d'une pharmacie. Même pas la caisse, la banque d'une pharmacie. Et première saisie de mon vrai boulot, quoi, de mon début de stage expert comptable. J'ai tout saisi à l'envers parce que j'ai suivi le relevé bancaire. Je l'ai fait dans le même sens. Donc tout était faux. Et j'étais dans un cabinet, et là, si Philippe, tu nous écoutes, je pense que tu vas rire, dans un cabinet qui était spécialisé dans les systèmes d'information et tout, on en parlera après, je suis persuadée qu'il aurait pu exporter ce que j'avais saisi, inverser les deux colonnes sur Excel et le réimporter. Mais je l'ai ressaisi. On a tout supprimé dans le journal de banque et j'ai tout ressaisi. Je peux vous dire que derrière, je n'ai pas saisi une seule fois à l'envers. Donc, c'est vrai que quand tu racontes des petites anecdotes comme ça, ça marque plus.
Et même par rapport à ton engagement là, avec l'association 100 000 entrepreneurs, déjà, je trouve qu'en général, dans la société, peut-être que ça a changé, mais j'ai l'impression que tu vois, quand on demande aux personnes qu'est-ce qu'elles veulent faire comme métier, y a rare... en fait, ce n'est pas vraiment une option d'entreprendre, c'est quel métier, au sens technique du terme. Et même, par exemple, dans la filière, je trouve qu'on ne met pas assez en avant le... Enfin, ou c'est peut-être moi, mais en tout cas, quand j'étais étudiante, etc., le côté entrepreneur, on ne le met pas en avant, je trouve.
Alors, effectivement, quand j'étais étudiante ou que j'ai choisi ça, moi, j'avais déjà en tête le côté entrepreneuriat, mais j'avais un papa qui était à sa troisième boîte. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ma maman. Ma maman, elle a passé les concours pour être fonctionnaire. Elle a bossé au ministère des Affaires étrangères sur Nantes. Quand on est parti dans le sud et à Paris, elle a pu se mettre ce qu'on appelle en disponibilité pour s'occuper de nous, en fait, et puis ne pas rechercher un travail forcément. Et quand, du coup, on a connu les aléas de la deuxième boîte de papa qui s'est arrêtée dans de mauvaises circonstances, elle est retournée, bosser au ministère. Et puis après, elle a fait un changement de carrière parce que pour des raisons de santé, ils sont plutôt partis en bord de mer plutôt que de rester à Nantes, qui est la grande ville de Loire-Atlantique. Et là, elle a intégré l'éducation nationale, mais pas en tant que prof. En fait, il y a le service des pensions et retraites de l'éducation nationale qui est à la Baule. Et du coup, elle a découvert un autre métier qui était celui de liquider les retraites des gens qui avaient été fonctionnaires pour l'éducation. Et petit à petit, elle a continué à gravir les échelons, à apprendre des choses nouvelles. Et à la fin, elle préparait tous les dossiers juridiques pour les gens qui contestent leur pension et où elle l'affirmait par les textes, par les pièces, etc. Pourquoi l'éducation nationale l'avait calculé comme ça. Donc, elle a eu un job très juridique, très pointilleux, très méthodique, puisqu'avant, c'était l'état civil des étrangers sur lesquels c'était beaucoup de la complétude de pièces, de traduction, etc. Et puis après, où ça a été sur une partie calcul des pensions et retraites. Tout ça pour dire que voilà, j'ai eu quand même un exemple devant les yeux qui était un père autodidacte, entrepreneur dans l'âme, et où du coup, moi, mon idée n'était pas de dire je serai salarié toute ma vie. Déjà, j'avais choisi expert comptable parce qu'il y avait l'envie de manager une équipe à terme, donc l'encadrement, prendre des responsabilités, etc. Et en ligne de mire, le fait de se dire si tu veux, tu peux te mettre à ton compte et faire quelque chose toute seule.
Toi, tu l'avais conscientisé, ouais. Parce que ton environnement faisait que... Mais est-ce que tu penses que ça pourrait peut-être plus attirer aussi les... Là, quand je dis les jeunes, c'est du coup avant qu'ils soient dans la filière... les jeunes collégiens, lycéens, de leur dire qu'en fait, c'est un métier qui permet aussi d'entreprendre. Enfin, je ne sais pas si, est-ce que dans les tendances, tu vois, est-ce que les jeunes ont de plus en plus envie d'entreprendre ?
Alors, en tout cas, je vais te faire le retour d'expérience de ceux que moi, je côtoie sur des classes d'une trentaine. Il y en a toujours au moins 3 ou 4 qui parlent déjà d'entrepreneuriat, mais qui souvent ont des parents entrepreneurs. En fait, ils ont l'exemple devant les yeux, ils voient comment ça se passe. Alors, des fois, ils ont une vision un peu faussée, peut-être parce que les parents ne montrent pas tout, mais du coup, ils voient le côté gérer son temps, une forme de liberté, même si derrière, tu as une pression de la part de tes clients et tout, ce n'est pas la même chose que d'avoir une pression de la part de ton employeur. Donc voilà, et puis selon les collèges et les lycées, c'est soit des gens qui sont plutôt dans l'artisanat, d'autres où c'est plutôt de la profession libérale, ou même à Nantes, on a un peu de tout, hein. On a des ESN autant qu'on a des belles réussites dans le domaine industriel, donc ils ont une vision assez large. Mais c'est vrai que ce qui revient le plus, c'est liberté, rémunération. Donc, il faut leur expliquer que c'est pas ça tout de suite.
Oui, puis en plus, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a des personnes qui mettent souvent en avant « Ah bah j'en ai marre de travailler pour un patron ou de leur rendre compte et tout. » Mais en fait, quand tu es à ton compte, en fait, les gens à qui tu rendais compte, tu es quand même responsable vis-à-vis de tes clients. En fait. Donc, c'est pas forcément plus facile. C'est différent, donc ça dépend des personnes.
Alors,
mais...
De tes clients au départ, et de puis si salariés, après, tu as tes salariés, exactement, tu as une sacrée responsabilité.
Il faut avoir de quoi payer le salaire à la fin du mois, quoi, parce que s'ils comptent sur toi.
Et ça, c'est un constat, parce que j'interviens dans encore une autre... je commence à intervenir dans une autre structure qui s'appelle Nanao sur Nantes, qui est une structure qui est là pour accompagner les gens qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, en particulier les femmes. Et je les ai rencontrés parce que du coup, avec l'Ordre, on est en train de s'inscrire dans un programme qui s'appelle le Plan d'Action Régional pour l'Entrepreneuriat Féminin, le PAREF. Et du coup, dans les constats qui sont faits, surtout depuis qu'il y a eu le Covid, c'est assez général, c'est pas que féminin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envisagé de quitter leur job pendant le Covid en se disant « je vais me mettre à mon compte » et où du coup ils déchantent un peu là. Ils se rendent compte que c'était pas si évident que ça de passer de l'un à l'autre et qu'on n'a pas tous les ressources et les capacités pour être entrepreneur au quotidien.
Mais c'est pas fait pour tout le monde et qu'en fait t'as des aspects positifs comme négatifs et je pense notamment... Je caricature un peu, mais en fait, quand t'es salarié, t'as les missions qui te tombent. Je caricature encore, mais tu produis. Enfin, t'as déjà, t'as le chiffre d'affaires qui t'arrive. Toi, tu produis, t'as ta REM à la fin du mois et t'as. Enfin, j'abuse, hein, mais t'as pas trop plus de questions à te poser.
Tu produis en étant rentable, c'est encore mieux.
Mais alors que quand, si c'est ta boîte, bah, ok, tu peux être très bon techniquement ou dans la production, mais est-ce que t'es capable d'avoir des clients, d'avoir suffisamment de clients qui te payent suffisamment? Enfin, en fait, il y a plein d'autres problématiques que des fois les gens n'ont pas envie de gérer. Enfin, est-ce qu'il faut que tu communiques?
Oui, ou qui n'imagine pas, pas qu'il y aura à le gérer. Parce que si tu t'installes en tant qu'expert comptable, moi, c'est des questions que je me suis posées. Est-ce que tu veux exercer le métier que je qualifierais de traditionnel? Avec, bon, je ne parle plus de la tenue de compta parce qu'on va dire qu'elle disparaît, mais présentation des comptes annuels, le côté attestation. Après, tu peux mettre des outils à disposition du client pour faciliter les choses, etc. Mais c'est la mission pour laquelle on vient de voir le plus facilement, en fait.
Parce que c'est ce qui est obligatoire, donc...
Bah, c'est pas obligatoire en tant qu'expert comptable.
Non,
c'est
mais ce que je veux dire, c'est que pour les clients, c'est là, ils viennent parce que c'est obligatoire.
C'est une de leurs pains, comme on dit dans le langage start-up, c'est que se débrouiller tout seul pour faire des déclarations annuelles, et en l'occurrence plutôt les déclarations fiscales que le fait de dire « je fais un bilan, un compte de résultat », ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils veulent la garantie sécurité, le fait que c'est fiable, que ce sera bien fait dans les délais, etc. Donc oui, c'est la mission pour laquelle on vient de voir le plus facilement. Mais par exemple, moi, une des premières décisions que j'avais prises, c'était de me dire si des clients viennent à moi, parce que je vais commencer à communiquer, ça va se voir, etc. C'est des gens qui attendent de venir m'emmener des documents papier pour que je fasse la tenue et que j'aboutisse au déclaratif. C'est non, je ne prends pas, j'oriente vers d'autres confrères. C'est dur de se dire ça quand tu commences de zéro, en fait. C'est un choix, mais c'est un choix stratégique. C'est parce qu'en fait, je veux qu'on reconnaisse la valeur de ma signature, la valeur du conseil que j'apporte et que le temps que j'ai à consacrer à mon client soit du temps de conseil de valeur, pas du temps sur le papier. On pourrait me prétexter, Gaël, prendre des salariés, tu les paieras moins cher et eux, ils pourront faire la tenue. C'est pas ma philosophie. Je préfère avoir des gens que je recrute à un niveau un peu plus élevé si demain je recrute, ce qui n'est pas encore ma volonté. Mais qui serait un niveau plus élevé et peut-être sur des missions qu'on n'attend pas chez un expert comptable. des gens qui pourraient conseiller sur le marketing digital, des gens qui pourraient conseiller sur comment optimiser tes process en les automatisant pour avoir une gestion de stock la meilleure possible. Là, oui, ça m'intéresse. On est dans le cœur de l'activité du client et on est vraiment là pour l'aider au quotidien et immédiatement. Si c'est faire de la tenue pour faire les TVA avec un mois ou un trimestre de décalage ou rendre des comptes trois mois après la clôture, je suis comme les clients, je ne vois pas l'intérêt en fait.
Bah après, pour le voir autour de moi, je pense que oui, il y a de plus en plus cette mentalité-là pour ceux qui créent. Sauf qu'il y a aussi ceux qui en reviennent en mode « je voulais faire que du conseil, que, etc. » Et sauf qu'au final, tu as quand même la récurrence qui fait que c'est une certaine sécurité quand tu t'installes. Tu vois, tu n'as pas à aller chercher à chaque fois le client. Et donc, c'est une forme de confort quand même qui peut te permettre, en tout cas, d'avoir une rémunération de base pour après faire autre chose.
J'ai pas dit non à tout. J'ai juste dit non au carton avec les papiers.
Et toi, tu as voulu faire ton stage directement après
Alors du coup, j'ai fini l'école de commerce et d'avoir tous mes diplômes. J'avais, quel âge j'avais ? On est en 80. J'avais 21 ans passé. Et là, je me suis confrontée à un truc. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'attractivité du métier et la pénurie de compétences, ce ne serait pas le cas. Mais j'ai cherché donc Loire-Atlantique, Pays de Loire, j'ai élargi.
En France. Fait,
oui, mais même plus loin, tu vas voir. J'ai élargi parce que je ne trouvais pas. J'étais souvent dans les trois derniers. Une fille avec deux garçons.
Dans les trois derniers, tu veux dire
parce
quand il y avait une sélection ?
Parce qu'il y avait des process de sélection dans certains cabinets. J'ai vu des cabinets parisiens où je suis allée trois fois. Pour un premier truc, c'était un test technique. Comme le test technique était bon, on me faisait revenir pour voir un des associés, puis revenir pour voir un deuxième, pour au final ne pas être retenu. On a pris un mec. Ok, d'accord.
Heureusement, du coup, il disait ouvertement. Bah, en fait,
techniquement,
on a pris un mec.
Vous étiez trois au même niveau. On a préféré prendre un garçon.
Ah oui, ok. C'est voilà. Violent quand même.
Écoute, c'est... Après, avec du recul, tant mieux. Parce qu'il fallait que j'aille sur le premier cabinet où j'ai été. Donc
puis avec cette du coup, ça permet, même si tu n'étais pas forcément en force de négocier, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne, ça reflète une image où tu te dis, bah, en fait, heureusement que je suis pas là, qu'ils ne m'ont pas pris parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs.
On est bien d'accord. En termes de marque employeur, ce n'était pas terrible. Mais après, ça m'a appris plein d'autres choses. J'avais développé une base de données CRM pour gérer mes candidatures. J'ai fait plus de 400 courriers, en fait.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est CRM ? Moi, je vois ce que c'est.
CRM, GRC, c'est les deux acronymes. C'est la gestion de la relation client. Et en fait, comme mon père était technico-commercial, qu'il avait cet outil-là, j'ai dit, je vais l'utiliser pour moi, pour gérer mes candidatures. Donc, en fait, je créais à chaque fois l'employeur vers qui j'allais postuler, soit en spontané, soit en réponse à une annonce. Et ça me permettait de suivre derrière les actions que j'avais à faire. Donc, si j'avais envoyé un courrier à telle date, bah, je me positionnais une relance une semaine après par téléphone pour savoir s'ils avaient bien reçu, etc. Mais du coup, pour pouvoir suivre et dire, bah, cette option-là, elle est close. Aujourd'hui, on appelle ça un lead. Quand on a des prospects, bah, ça revient au même, en fait. Ça me permettait de clore le lead et de dire, celui-là, ça ne marchera pas. Ça m'a permis de faire des statistiques aussi. Donc, je sais que j'avais fait plus de 400 candidatures sur toute la France à l'époque.
C'est énorme.
Que ce soit en réponse à des annonces ou en spontané. Après, peut-être je ne construisais pas bien ma lettre et tout. Hein. Je n'ai pas été analysée le pourquoi du comment. Je pense que j'avais déjà du tempérament, donc ça pouvait aussi faire un peu peur en face. J'en ai qui m'ont dit clairement, votre profil, il est super, mais 21 ans, vous allez avoir des enfants. Donc, on n'a pas, enfin, on prend pas le risque.
C'est tôt quand même, 21 ans.
Ah, écoute, c'était une autre époque. Peut-être qu'ils imaginaient que tout fonctionnait comme ça, j'en sais rien. Et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai fait plus de 45-50 entretiens au total après ces candidatures-là, parce qu'il y en a où ça n'aboutissait pas du tout. Pendant ce temps, c'est dur, parce qu'en fait, quand t'es quelqu'un qui a toujours tout réussi sans redoubler, avec un an d'avance, qui a plutôt des facilités et tout, tu te prends des portes quand même, donc déjà, faut l'encaisser. Après, à la maison, j'étais bien occupée. J'ai aidé mon père sur certaines parties de son activité. J'étais présente pour mes frères et sœurs pour soulager ma mère. Enfin, j'en garde pas un mauvais souvenir. J'allais en roller le long de la plage à la Baule jusqu'à la NPE, donc l'ancêtre de France Travail, Pôle Emploi. Donc voilà, il y avait des aspects sympas. Et du coup, jusqu'au jour où je me suis dit, bon là, ça suffit. Je vais faire appel à mon joker. J'avais une super copine depuis que j'étais étudiante à Nantes et que mes parents étaient partis et que j'avais fait, comment on appelle ça ? J'étais en résidence universitaire, dans un endroit hyper privilégié du centre-ville nantais, mais en résidence. Et du coup, une de mes meilleures copines, elle est originaire du Burkina Faso. Elle est née en France, elle a vécu en France, mais elle a vécu une bonne partie de sa vie au Burkina. Son papa, il est expert comptable au Burkina Faso. Et comme je ne trouvais pas ici, je m'étais renseignée et je savais qu'on pouvait valider le stage dans certains pays francophones. Et du coup, j'étais prête à partir au Burkina. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir à cette piste-là parce que j'en avais marre d'attendre et que je voulais travailler et que je voulais valider mon stage. Et puis j'ai été en entretien. Alors je ne sais plus si c'était sur Lyon ou sur Paris, mais en tout cas, j'étais sur la ligne de train qui descend jusqu'à Nîmes. Et là, je reçois un appel. J'avais répondu à une offre sur Nîmes et l'expert comptable m'appelle et il me dit « Écoutez, moi, j'aimerais vous rencontrer. Par contre, je suis dispo que le samedi matin. Est-ce que vous pouvez venir ? Parce que j'ai bien conscience que vous êtes loin, puisque j'étais sur Nantes-La Baule. » Je lui dis « Bah, y a pas de souci, je suis en entretien donc à Lyon ou à Paris, je me rappelle plus. Dès que j'ai fini l'entretien, je prends le train, j'arrive. » Il me dit « Par contre, je vous paye votre train, je vous paye l'hôtel le soir, je viens vous chercher à l'hôtel. » Je me dis « Waouh, quoi, c'est le premier sur toutes les candidatures, tous les entretiens, c'était le premier qui proposait de rembourser les frais, quoi. » Marque employeur, hein. Je dis ça et je dis rien. Et du coup, banco, j'arrive. Donc, le samedi matin, il vient me chercher à l'hôtel qui était un de ses clients. C'était un Ibis, je me rappelle. Et il me fait visiter les locaux où est installé son cabinet. Il m'explique. Donc, on était dans des locaux où il n'y avait que des SS2I. Pas start-up, mais presque. Sur de la techno particulière, dont une dont tu connaîtras peut-être le nom, qui s'appelle ITsoft, qui est une société qui faisait de la reconnaissance de caractères manuscrits. À l'époque, l'OCR, c'était les débuts, on va dire, c'était les grosses boîtes qui pouvaient se le permettre. Et derrière cette société-là, elle a créé quelque chose qui s'appelle Use.
Oui, je connais.
Donc en fait, il y a 25 ans, quand j'ai commencé en cabinet, j'ai commencé dans un immeuble où il y avait la société qui a fondé Use derrière. Donc la directrice de Use, Magali Michel, moi je l'ai connue, elle était directrice marketing d'ITsoft en fait. Pour te situer l'environnement dans lequel j'arrivais et pourquoi j'arrivais dans cet environnement-là, c'est parce que le cabinet dans lequel j'arrivais, Philippe, qui avait fait une partie de son expérience professionnelle chez Ducros Épices, avait implanté là-bas un ERP pour pouvoir faire de la clôture très très vite, du closing J plus 2, J plus 3, etc.
Fast closing. Ouais,
avec des automatismes et toute une réflexion du système d'information en amont pour pouvoir aboutir à ça. Donc déjà, lui, il avait cet attrait pour les outils. Et en l'occurrence, c'était sur de l'ICE-400. Donc tout le monde manipulait
j'ai
pas ça.
J'ai déjà utilisé quand j'avais fait un CDD dans une boîte de transport. Et ils avaient ICE-400. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment genre sur écran noir et des écritures vertes, genre comme le Minitel, quoi. Et tu navigues avec les touches, pas avec la souris, je crois. Enfin,
oui, alors nous, on était déjà un peu plus modernes,
ah ouais,
et pourtant, c'était il y a 25 ans.
Et ouais, bah moi, c'était il y a 5 ans.
Parce qu'il y a des choses qui existent qui s'appellent les émulations PC, où en fait, c'est comme si tu absorbais l'écran moche sur lequel tu fonctionnes, comme tu as dit, mais où du coup, tu le places dans un environnement Windows où c'est plus sympa à l'œil. Donc, du coup, dans les locaux, il y avait aussi une boîte qui s'appelle Simtrax, qui existe toujours. Qui, elle, s'était spécialisée sur les ponts entre Windows, en particulier Microsoft, et l'AS400. Donc, en fait, par exemple, ils récupéraient les éditions qui étaient très moches sur imprimante matricielle. Ils les récupéraient avant qu'elles s'éditent. Ils les mettaient sous Word pour en faire une présentation plus sympa. Ils pouvaient faire de la requête sur les données, les mettre dans Excel et tu les exploites. Et à cette époque-là, il y avait aussi, on va dire, des ancêtres de Power BI et Tableau. Ça s'appelait des hypercubes, où tu pouvais aller chercher des données de plusieurs manières dans ton ERP, en fait, dans ton logiciel global système, et faire des analyses que tu n'aurais pas pu faire dans l'outil, en fait. Donc, déjà, il y a 25 ans, je suis arrivée là-dedans, en fait.
Oui, et en plus, déjà, vu comment ils t'accueillent, et après, connaissant tes appétences, tu tombes dans un cabinet comme ça. Enfin, en fait, tu te dis, bah, heureusement que tous les autres m'ont refusé, quoi.
Bah, ça, tu te le dis avec le recul, en fait. Et du coup, en plus, une confiance que m'a accordé Philippe dès le début. En fait, je pense qu'il avait senti que j'avais vraiment une appétence pour ça et une façon de réfléchir qu'allait avec les bases de données, les systèmes d'information. Il m'a envoyé former des gens sur des trucs que je connaissais même pas en partant. Je me formais dans le train en lisant les manuels avant d'aller former des gens pendant 2 jours, quoi.
Mais lui, il était expert comptable, ouais. Et il avait une partie de son activité où il formait des dirigeants.
En fait, il avait dans le cabinet, c'était un cabinet atypique. On avait peu de clients en tenue, quelques-uns. On avait des clients où on faisait de la révision, présentation des comptes. On avait quelques mandats de commissariat, mais surtout, on avait des grosses missions conseil où on venait. Alors, on pouvait venir auditer une entreprise et puis lui dire on vous conseille soit Sage, soit la S400. On était centre de compétences Sage et il y avait la S400. Par rapport à vos besoins, on a identifié que c'est ça qu'il vous faudrait. On est capable de vous dire comment faudrait les paramétrer pour que ce soit optimal par rapport à vos besoins, et on est capable de former vos équipes. Et du coup, quand tu fais ça, tu t'immisces déjà dans la vie de l'entreprise, tu peux parler d'autres choses. Alors on évitait, parce que souvent ils avaient déjà un expert comptable, mais on était quand même bien présents sur toute cette chaîne. Je me rappelle d'une société qui faisait de la vente à domicile, produits. Alors, il devait y avoir de la cosméto et de l'entretien. En fait, il récupérait dans les commandes à domicile, les réunions style Tupperware, il récupérait plein de chèques. En fait, ton bon de commande, tu pouvais le payer jusqu'à 3 chèques, avec 3 chèques avec 3 dates. Et du coup, il gérait ça dans des petites caisses en carton, des couvercles de ramettes qui étaient mises dans un coffre. Mais il ne savait pas ce qu'il y avait, en fait, dans les ramettes. En gros, en trésorerie, tu n'étais pas capable de dire qu'est-ce qu'il y avait à l'encaissement le mois prochain. Et en fait, c'est surtout Philippe. Hein, à l'époque, moi, je n'étais pas madame, j'ai des idées, j'étais madame, j'exécute. Mais Philippe avait dit, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on puisse lire les chèques avec des codes barres pour savoir exactement ce qu'on a à l'intérieur par rapport aux données qu'on a saisies. Du coup, quand on saisissait la commande, on pouvait dire qu'il y avait 3 chèques avec 3 dates différentes. Et tout ça, en fait, avait été pensé au moment de la bascule sur l'autre outil et pour faire des automatismes permettant d'aboutir à une gestion pilotée au jour le jour, quoi.
Et donc, tu étais déjà dans un cabinet qui était quand même vachement centré sur les besoins du client, comparé à... Je ne vais pas faire de généralité, mais je pense... Enfin, qui était, oui, comme tu dis, très atypique et forcément qui a forgé après ton
Qui faisait, je m'en rends compte avec le recul, mais qui faisait déjà des missions qu'aujourd'hui, on propose comme étant des nouvelles missions. On était DAF externalisé d'IT Soft. On était DRH externalisé d'IT Soft. Enfin, c'était l'épouse de Philippe qui s'occupait de ça, Françoise. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était avant-gardiste, quoi. Comme,
même aujourd'hui, limite, cabinet. Ça serait avant-gardiste. Et alors que c'était il y a 20-25 ans, quoi. C'est ouf.
Et du coup, donc, cette aventure, superbe. Alors après, avec des gros challenges. Hein. Il y a eu des fois où on avait pu faire une analyse où on n'avait pas eu toutes les informations, parce qu'on faisait aussi de la récupération de comptabilité quand il y avait des rachats et des fusions, avec enrichissement de la donnée en travaillant...
Donc un peu peut-être manager de transition ou...
Non, vraiment que sur la data. En fait, pour te donner un exemple, un gros groupe rachetait une petite entreprise. La petite entreprise, peut-être qu'elle était sur Ciel ou sur EBP, il fallait mettre sur la S400. Pour te donner un rapport, EBP ou Ciel, 10 champs à remplir sur une ligne d'écriture, la S400, tu pouvais en avoir 350. Donc en fait, il fallait expliquer aux informaticiens, après avoir pris l'information auprès de la boîte qui achète, et dire, à tel endroit, si tu as telle chose, il faut compléter avec tel autre, en fait. Et fabriquer des programmes qui font ça. Donc, commencer par les tester en mode on essaye. Et puis après, le faire en direct live et vérifier que l'info attendue est la bonne par rapport à ce qu'on a récupéré au début. Et il y a eu une fois, on a eu ce challenge en une semaine, parce qu'on bloquait les équipes comptables le temps qu'on récupère ce qu'on avait à récupérer. Donc, du lundi au vendredi, on devait finir. Parce que le lundi d'après, les équipes, elles revenaient de vacances, elles se remettaient au boulot, quoi. Et arrivé au milieu de la semaine, on se rend compte qu'ils ne nous ont pas tout dit, ils ont changé de plan analytique en cours d'année. Donc en fait, ce qu'on était en train d'essayer d'injecter ne passait pas, parce que les règles avaient changé en cours d'année. Mais on ne l'avait pas anticipé, on s'en est rendu compte from scratch, direct live en mission. Et en fait, Guillaume, si tu m'entends, nous avons repris contact il n'y a pas longtemps. On a bossé la nuit, on a dormi sur la moquette. À l'époque, on pouvait fumer dans les bureaux. Et on a dû rentrer le samedi ou le dimanche au lieu de rentrer le vendredi. Le lundi matin, j'ai dormi. Et le lundi après-midi, quand je suis arrivée au bureau, le client avait envoyé un gros bouquet de fleurs pour dire merci. Mais les équipes ont bossé.
C'est une belle anecdote.
Et du coup, c'était hyper challengeant. Enfin, vraiment, j'aimais ça. Mais du coup, il y a eu ça. Après, Philippe, c'est un entrepreneur. Hein. Il a racheté des cabinets, ce qui lui a permis d'intégrer une Extenso. Du coup, il a fallu passer sur les outils d'Inextenso, structurer le cabinet. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. C'était hyper intéressant. Mais sur cette période-là, en fait, moi, j'avais soif de découvrir et je ne me suis pas trop mis de limites. Et du coup, ça a conduit à un arrêt de 15 jours pour dormir. Appeler ça burn-out.
Et t'arrivais plus à te lever ou...
En fait, ça faisait déjà plusieurs fois que j'allais voir le médecin pour lui dire « Vous pouvez pas me filer un peu de vitamine, là, je me sens un peu flagada, etc. » Et puis en fait, à un moment, il me dit « Mais Gaëlle, c'est la quatrième fois que vous venez me voir pour me demander la même chose. Ce matin, vous êtes partie à quelle heure au boulot ?» Alors en fait, je me levais hyper tôt, j'étais au boulot très très tôt et je pouvais rester très très tard.
C'est
et...
quoi très très tôt ?
Oh, je me rappelle deux fois où j'ai dû arriver au boulot à 6h du matin et pas partir avant 23h parce qu'il y avait du challenge, tu vois, par exemple. Enfin, un rythme soutenu, quoi. Et puis même si des fois, c'était pas l'amplitude horaire, c'était l'amplitude intellectuelle, la vitesse à laquelle il fallait aller. Mais c'était tellement passionnant, quoi. Et en plus, j'avais la chance d'avoir, Philippe le sait, je lui ai dit, on s'est revu à Montpellier au congrès, un mentor, quoi, qui était hyper dispo pour transmettre son savoir. Son épouse Françoise, pareil. T'as qu'une envie, c'est prendre, en fait, quoi. Sauf qu'en fait, je me suis pas assez écoutée et que... Il y a eu un moment où le médecin m'a dit « Non, mais là, si je vous mets pas un arrêt pour dormir, ça va finir en non-assistance à personne en danger. » Parce qu'en fait, je me rappelais pas de la route que je faisais pour aller au boulot, si j'avais croisé des voitures ou pas. Enfin, c'était pas sérieux, quoi.
Et ça, à ce moment-là, t'étais en stage, t'as fait tout ton stage là-bas?
J'ai fait mes 3 années de stage chez Philippe. Je suis restée 4 ans. Parce qu'en fait, après cet arrêt de 15 jours, bizarrement, moi qui n'avais rien vu arriver dans ma vie personnelle, pendant cet arrêt de 15 jours, en tout cas à la fin, je suis allée me promener à Marseille chez une copine et j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc du coup, pendant un an, j'ai fait les trajets tous les week-ends où lui les a fait entre Nîmes et Marseille. Faut savoir que ça fait 1 heure de route. Donc au bout d'un moment, on arrête cette vie-là puis on se dit lequel des deux bouge. Mon mari, à l'époque, il travaillait sur le port de Marseille. À Nîmes, il n'y avait pas un port de la même taille pour trouver le bon job. Plus facile pour moi de bouger. Avec Philippe, on a envisagé quelque temps une solution qui aurait pu être hybride. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc j'ai quitté le cabinet et j'en ai intégré un autre sur Marseille. Pour changer, j'avais fait un mailing courrier à des cabinets que Marseille-Centre, parce que mon mari était plutôt Marseille-Centre, et puis moi, ça me disait bien d'arriver là-bas. Et du coup, j'ai choisi d'aller dans un cabinet, et je dis bien choisi, parce que là, j'ai fait plusieurs entretiens et j'avais plusieurs propositions. C'était pas comme la première fois. Et j'ai choisi de faire du commissariat aux comptes, parce que j'en avais fait peu. J'avais pas cette approche et j'ai eu la réflexion de me dire ton CV, il faut qu'il soit vendeur demain, employabilité, puis découvrir. Donc faisons quelque chose de nouveau, quoi. Donc commissariat au compte, un environnement totalement différent. Quelqu'un qui voulait qu'on fasse 35 heures et pas plus.
T'es tombé quand même dans deux premiers, ce que j'appellerais bons cabinets, non?
Ouais, alors là, au niveau encadrement, c'était particulier ce cabinet-là. Mmh. C'était quelqu'un qui avait des fonctions politiques où, du coup, dans les clients, on avait des gens qui pouvaient dépendre de sommes allouées par conseil général ou conseil régional. C'était un peu particulier comme environnement, très, très apprenant. Et par contre, ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de récupérer. Donc là, j'habitais au-dessus du Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille, en face des Jardins du Pharo, un endroit super. J'allais à pied par la corniche de Marseille au cabinet, donc en longeant la mer. Et en revenant, je pouvais m'arrêter à ma salle de sport pour faire du sport avant d'entrer à la maison. Autant dire que c'était quand même assez idyllique de faire ça, en plus de découvrir un métier que je ne connaissais pas, celui de commissaire aux comptes, avec la chance de le faire sur des très gros dossiers, donc vraiment en apprenant les méthodes d'appréciation par les risques, utilisation des outils, le contrôle interne qu'on fait en vrai. On avait les deux opaques HLM de Marseille, par exemple. Donc, du coup, là, en contrôle interne, tu vérifies bien que les appels d'offres, c'est fait comme il faut, par exemple, ou que les loyers douteux, ils respectent bien une certaine procédure de relance avant de passer en douteux. Enfin, voilà, c'est deux exemples auxquels je pense, mais hyper riche, hyper intéressant. Et puis, du coup, récupérateur. Ce que j'ai pas dit, c'est que sur cette période-là, en fait, je suis quand même allée passer. J'étais, je sais plus si j'étais à Marseille ou si j'étais à Nîmes, mais je suis allée passer les écrits du DEC, écrits que j'ai obtenus dès la première fois parce que je suis tombée l'année où la SAS a été créée et où si tu y allais avec ton Lefebvre droit des sociétés, t'avais l'examen. Donc, du coup, j'ai eu de la chance. On va dire ça comme ça. À l'époque, on n'avait pas de QCM, on avait un entretien par rapport à nos 3 années de stage sur lesquelles on expliquait ce qu'on avait fait. Un peu de question déontologie, mais du coup, l'idée, c'était de déclencher un intérêt du jury qui était face à nous. Et moi, je leur avais expliqué comment on avait mis en place une rémunération variable avec de l'analytique sur le cabinet où j'étais, dans le premier cabinet. Et là, c'était bon, quoi. Enfin, je les ai intéressés, on n'a parlé que de ça, et l'oral, ça a été une formalité, celui-là.
Et comment ça fonctionnait, cette rémunération variable ?
En fait, on ventilait nos salaires tous les mois par rapport au temps passé sur les dossiers clients. Chacun de nous, en gros, avait un coefficient par rapport à son niveau d'expérience, de compétences, etc. Et ça permettait de dégager une rentabilité sur le dossier. De ça a été enlevé les frais généraux. Mais tout ça avait été discuté avec Philippe. Enfin, c'était consensuel, c'était pas imposé. Et en fait, sur le solde qui restait, c'était réparti à ceux qui avaient contribué aux résultats sur le dossier, en fait.
Okay.
Donc, moralité, tu faisais des missions à valeur ajoutée qui sont facturées chères, sur lesquelles tu t'investis toute seule ou presque, ou en tout cas avec Philippe, bah, tu pouvais avoir une rémunération variable plus que confortable. Par contre, l'inconvénient, quand tu es quelqu'un comme moi qui aime quand même un certain confort de vie, en tout cas à l'époque, tu fais beaucoup. Du coup, tu bosses beaucoup, tu gagnes beaucoup, mais tu n'en profites pas beaucoup. Parce que quand tu es en vacances et que tu arrives chez toi, on en parlait tout à l'heure, ça fait 2 heures que tu es arrivé chez tes parents, en fait, et oh mince, tu as 42 fièvres, tu dois te coucher, et pendant 2-3 jours, tu ne sors pas de ton lit. Donc voilà. C'est...
Est-ce que tu ne t'autorises pas à être malade, à écouter ton corps ?
C'est ça. Puis tu es dans la course à toujours plus. Parce que tu as envie, parce qu'on te fait confiance, parce que tu es reconnu pour tout ce que tu sais faire, etc. Et voilà, l'écrit et l'épreuve orale de soutenance de stage, on va dire, obtenu la première fois plutôt une formalité, le mémoire, ça n'a pas été la même histoire.
Ah ouais, pourtant, je me dis qu'avec les cabinets que tu as fait et tout, tu devais avoir des sujets qui sortent, tu vois, naturellement. Plutôt que des fois, tu as des personnes qui sont dans des cabinets, on va dire, traditionnels, même si je pense qu'on peut toujours trouver des sujets si on est curieux, si on s'intéresse. Enfin, pour moi, ça me paraît plus évident. Après, c'était peut-être pas le choix du sujet, c'était peut-être le temps pour la rédaction.
Non, non, c'était le sujet. Alors, le sujet, je l'ai trouvé. Tant que j'étais
dans le digital, non ?
Tant que j'étais chez Philippe, j'ai eu la chance de bosser sur un gros groupe immobilier en révision qui avait plusieurs SCI de construction-vente. Et du coup, Philippe avait récupéré ce dossier parce que on avait dit qu'on allait piloter les résultats de chaque SCI de construction-vente, c'est-à-dire le budget de construction, le budget de commercialisation avec les prix de vente des appartements, suivre à quelle vitesse ils sont vendus, pareil pour la construction, plus et moins value. Enfin, je vais pas te refaire tout le détail, mais l'idée c'était qu'on puisse appréhender le résultat à l'avancement. Parce que l'expert comptable d'avant l'appréhendait qu'à l'achèvement, quand c'était terminé. Et du coup, nous, la condition pour pouvoir dire on passe à une méthode à l'avancement, c'était que ce soit suffisamment fiable en termes de suivi et suffisamment proche de la réalité pour pouvoir le faire. Donc en fait, mise en place d'outils.
Ça reflète l'opération, enfin ce qui se passe dans la réalité et pas qu'on se dise là, je pense que c'est 30%.
Voilà, c'est ça. On est à 30% d'avancement. Le résultat, il était prévu à 1 million. Je peux prendre 300 000 et on ne regarde pas où on en est de la réalité. Donc en fait, il y avait un outil qui avait été monté, réfléchi, etc. Avec nous et sur lequel on s'appuyait où il fallait aller vérifier les informations qui étaient mises dans l'outil pour pouvoir dire on est d'accord ou pas pour appréhender le résultat à l'avancement passer des écritures de cut-off qui correspondent à ça, en fait.
Donc déjà, avant de démarrer la mission, de s'assurer qu'on a bien toutes les... Enfin, que les infos sont fiables, je crois que la première étape déjà avant de travailler.
Exactement.
Dessus.
Et du coup, j'avais fait mon mémoire dessus. Comment on met en place un outil, comment on bosse pour réussir à fiabiliser et à prendre un résultat à l'avancement. je crois que je suis tombée sur des gens qui, déjà un universitaire, un vieux monsieur. Entre le fait de dire on passe à l'avancement et le digital, je crois que je l'avais achevé. Et puis à côté, j'avais un expert comptable plutôt jeune, mais très attaché au droit. Le droit de l'urbanisme, le droit de plein de choses qui n'étaient pas du tout le sujet de mon mémoire. Premier oral, j'y vais, j'ai 25 ans, 25 ou peut-être entre 25 et 26, mais en tout cas jeune. Il me pose 2-3 questions sur le mémoire, hors sujet à mon avis, donc j'essaye de recadrer gentiment. Et puis, bah, il s'acharne, quoi. Et encore une fois, j'ai un petit tempérament. Donc, je commence à monter dans les tours, etc. Je sors de là, je me dis, oh là, ça ne va pas le faire. 6. OK. Je digère. Je pense que c'était plus la soutenance orale que le fond du mémoire qui avait fait ça. Du coup, une fois arrivé à Marseille, là, par contre, je me rappelle très bien, je me dis, je prends le même jury. Je vais améliorer mon mémoire, je vais perfectionner. Ouais, t'avais des infos. Je vais perfectionner, ils vont voir la progression. Et puis, en fait, je m'en fous, j'ai des points d'avance, quoi. Donc, j'y vais pas non plus pour la gloire, être en bibliothèque et tout, je veux juste finir, quoi. Donc, je rebelote, je retourne. Oh, il commence à m'allumer dès le début à l'oral. Oh, mais alors là, moi, je suis partie dans les tours, quoi. Je me suis fâchée et tout. Résultat 4. Interdiction de représenter le même sujet. Oh ! Alors, comment te dire ? Là, tu digères un petit peu. Tu dis que tu as quand même passé du temps à faire le premier. Et bon, on va voir. Hein, on verra la suite. Et puis, à cette époque-là, du coup, mon mari et moi, on envisageait de fonder une famille. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Marseille, pas Marseille ? Marseille, en tant que jeune couple, c'était très sympa. Maintenant, en tant que famille avec des jeunes enfants, par rapport à tout ce qu'on entendait, on ne s'imaginait pas continuer à vivre là-bas. Donc, puis moi, ma famille est ici. Mon mari, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il est libanais. Le seul frère qu'il avait en France, il était à Nantes. Donc, c'est le plus grand des hasards. Hein. Se rencontrer au café de l'OM en ayant la famille à Nantes, tout le monde ne le fait pas quand même. Bref, et du coup, on a dit, bah, on fait le choix de revenir sur la région nantaise.
Hop, 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 tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là. Il semble que notre invité était un tout petit peu bavard. Alors, si tu veux connaître la suite de ses aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.